Chers amis des cellules, bonjour. Nous abordons aujourd'hui le troisième module de notre cycle « La messe à la lumière de l'Évangile ». Dans le premier module, nous avions vu comment la structure de la messe correspondait à la structure de l'Évangile, et du coup comment à travers la présence à la messe, il nous était donné de vivre en condensé l'aventure de l'Évangile. Dans le deuxième module, nous avions tâché de comprendre comment l'articulation de la liturgie de la parole et de la liturgie eucharistique nous faisait répondre à des questions. Première question, qui es-tu, Jésus? Et nous répondons par le credo et lui de nous demander, veux-tu me suivre? Nous écoutions la parole de Dieu et nous répondions à cette question, qui es-tu, Jésus? Et puis la liturgie eucharistique, c'était cette façon de dire « Je veux te suivre, mais il faut que tu m'ouvres un chemin pour que je puisse aimer comme toi. » Et Jésus de nous dire « Suis-moi. » Et nous voyons comment dans l'offrande de sa vie, il vit cet amour jusqu'au bout en s'offrant par ses amis. Il partage sa puissance d'aimer qui va faire jaillir la vie. Et il envoie en mission, il nous envoie vivre comme lui. La liturgie eucharistique nous invite à suivre et nous engager à la suite de Jésus. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur la partie principale de la liturgie eucharistique que l'on appelle la prière eucharistique. Nous nous appuierons sur le petit document que je vous ai transmis, la prière eucharistique. Alors vous voyez que cette prière eucharistique peut être décomposée en sept parties. La préface, l'épiclèse sur les offrandes, le récit de l'institution et la consécration, l'anamnèse, l'épiclèse sur le peuple, les intercessions et la doxologie finale. Je lis le document. La préface. C'est une prière d'action de grâce adressée par le prêtre au nom de toute l'assemblée à Dieu le Père pour l'œuvre du salut. Avec cette formule connue, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, etc. Elle se termine par le chant du Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Sanctus, par lequel le prêtre et le peuple, s'unissant à tous les anges, acclament le Dieu trois fois saint. C'est une prière d'action de grâce. Action de grâce, ça signifie merci, ça signifie qu'on a une lecture de notre histoire, et que, en voyant cette histoire et en percevant l'œuvre de Dieu, nous lui disons merci pour son œuvre de salut. Après cette formule, chaque préface va préciser, du coup, un point particulier qui motive ce remerciement. Je vous en donne un exemple. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Dans ce cas précis, on fait mémoire de notre condition issue du péché qui devait nous mener à la gloire, et l'on se réjouit de ce que Dieu nous donne de participer à sa propre gloire. Ce merci, cette action de grâce, va culminer par un chant de louange, le Sanctus, un chant qui nous vient du cœur angélique, c'est le livre d'Isaïe au chapitre 6, une vision du prophète, qui, autour du trône de Dieu, voit les anges, les séraphins, qui chantent à tue-tête « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Il y a quelque chose d'assez beau de nous dire que, lorsque nous célébrons l'Eucharistie, nous sommes unis à la liturgie des anges dans le ciel. Ce n'est pas simplement une liturgie, une œuvre des hommes sur la terre. Nous nous unissons à la liturgie céleste qui entoure le Seigneur. Deuxième temps, l'épiclèse sur les offrandes. Je lis. L'Église, unie au Christ, implore auprès du Père la puissance du Saint-Esprit pour que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Seigneur. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils. Notons au passage que la prière eucharistique est une prière qui est adressée au Père. Nous l'adressons au Père par le Christ dans l'Esprit Saint. Notez encore que le prêtre parle bien en nous, il ne dit pas simplement « je ». Il s'adresse au Père en disant « nous », ce qui manifeste que cette prière est portée par tout le peuple de Dieu, pas simplement le prêtre. Le peuple de Dieu dans son ensemble est un peuple sacerdotal, c'est-à-dire un peuple de prêtres. Mais de la même façon que sans le Christ, l'unique grand prêtre, nous ne pouvons rien faire, de même le peuple de Dieu manifeste cette dépendance du Christ avec une dépendance au ministre ordonné, au prêtre, sans lequel la célébration de l'Eucharistie ne peut pas avoir lieu. Nous manifestons cette dépendance radicale à la personne du Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, et cela est rendu présent. Sans le prêtre ministre ordonné, le peuple sacerdotal ne peut pas remplir sa mission de prêtre. Il a besoin de la présence du prêtre qui rend présent le Christ tête pour pouvoir accomplir sa mission d'être tout entier peuple sacerdotal. Sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, il a voulu nous associer à son œuvre. De la même façon, on comprend donc que le ministre ordonné, le prêtre, n'est pas prêtre pour lui-même, mais il est prêtre pour le service du peuple de Dieu, afin que par sa présence, tout le peuple de Dieu puisse accomplir sa mission de peuple sacerdotal et se souvenir qu'il est en dépendance radicale de l'union au Christ, l'unique grand prêtre. Cette partie portait le nom d'épiclèse, qui est un mot qui vient du grec, qui signifie « appeler sur », parce que l'on appelle l'Esprit Saint sur les offrandes. De fait, sans son intervention et sans sa puissance, le pain et le vin qui sont apportés ne pourraient pas devenir le corps et le sang du Christ. Il faut la présence et la puissance de l'Esprit Saint pour que ce qui n'était que du pain et que du vin devienne la substance même, la vie même de Jésus. Troisième temps, le récit de l'institution et la consécration. Par les paroles et les actions du Christ s'accomplit le sacrifice que lui-même institua. Il prit le pain en disant « Prenez et mangez-en tous ». Il prit la coupe et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous ». Vous ferez cela en mémoire de moi. Vous voyez qu'à ce moment, le prêtre assume à la première personne les paroles mêmes de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Il est manifesté par là que l'on n'est pas en train de célébrer un autre sacrifice que celui que le Christ accomplit. C'est le même don de sa vie qui eut lieu au Jeudi Saint, qui est rendu présent ici, aujourd'hui, maintenant, dans notre célébration eucharistique. Ce n'est pas un autre don, on ne réitère pas le don du Christ, on rend présent, on ouvre, si on pourrait dire, une fenêtre sur le temps, nous sommes rendus contemporains du don de sa vie. Nous saisissons alors par là toute l'importance de la présence de l'Esprit-Saint. C'est le don de l'Esprit-Saint donné à l'ordination, qui permet au prêtre de dire en vérité « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Sinon c'est un doudingue qui invente des choses. Mais par la puissance de l'Esprit Saint, nous entendons la voix du prêtre, mais c'est le Christ lui-même qui consacre, c'est le Christ lui-même qui donne sa vie, c'est le Christ lui-même qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, fait de ce pain et de ce vin son corps et son sang. Quatrième temps, l'anamnèse. L'anamnèse est un mot qui signifie « mémorial ». L'Église fait mémoire du Christ lui-même en attendant sa venue, se souvenant principalement de sa passion bienheureuse, de la glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Cela est manifesté par les paroles « Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve », etc. Comprenons bien que le terme de mémorial a un sens précis, j'allais même dire technique. En parlant de mémorial, on ne désigne pas un mémorial à l'image de ces statues de soldats comme pour les mémoriaux du 11 novembre ou de la fin de la guerre 39-45, où l'on fait simplement un acte de souvenir. Le mémorial, dans la tradition judéo-chrétienne, est un acte religieux qui rend présent ce qu'on a évoqué, quand les Hébreux célébraient le mémorial de la Pâque, du passage de la mer Rouge, ils considèrent qu'ils ont passé réellement la mer Rouge avec leur père autrefois. En célébrant ce mémorial, ils sont ceux qui passent la mer Rouge. L'épisode n'est pas perdu dans le passé, il est rendu présent, vivant pour eux. Ils sont rendus contemporains de ce qui s'est produit. Et donc nous-mêmes, en proclamant ce mémorial, nous affirmons que nous avons conscience et foi, que nous sommes touchés par le don de Jésus au Jeudi Saint, par sa mort le Vendredi Saint, par sa résurrection au matin de Pâques. Ce ne sont pas des événements figés dans le passé, ce sont des événements qui nous sont rendus contemporains, ce sont des événements dont nous sommes rendus contemporains, dont le salut nous rejoint, nous touche et nous transforme. Notez bien que l'on manifeste aussi que nous attendons sa venue glorieuse. Nous célébrons l'Eucharistie dans l'attente de sa venue glorieuse. Nous célébrons l'Eucharistie pour hâter aussi la venue glorieuse du Christ. Une chose dont on n'a pas forcément conscience, mais chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous hâtons le retour glorieux de Jésus. Cinquième temps, l'épiclèse sur le peuple. En présentant au Père le Christ, sacrifice parfait, l'Église invoque l'Esprit Saint sur tous les fidèles pour qu'ils apprennent à s'offrir eux-mêmes de jour en jour, unis au Fils et entre eux comme un seul corps. Il y a donc dans la célébration de la messe deux épiclèses. La deuxième souvent passe inaperçue. On repère bien l'épiclèse sur le pain et le vin pour qu'ils deviennent corps et sang de Jésus, mais souvent on ne prête pas attention à la deuxième épiclèse qui est pourtant extrêmement importante, l'appel de l'Esprit Saint sur tout le peuple, pour que tout le peuple, par l'action de l'Esprit Saint, apprenne à s'offrir lui-même, que tous les membres du peuple apprennent à s'offrir eux-mêmes comme le Christ, unis avec le Christ. Et que leur lien entre eux, eux qui sont baptisés, eux qui sont devenus fils du Père, que leur lien soit tel qu'ils apparaissent comme un seul corps, un seul esprit, qu'ils soient le corps du Christ, que leur façon de vivre, leur façon d'aimer, soit un visage clair, net, du visage même du Christ, que l'action de leurs mains soit une image claire des mains du Christ, que l'action de leurs paroles soit une image claire des paroles du Christ. Le Christ s'est offert lui-même, et nous implorons l'Esprit Saint pour pouvoir nous offrir comme lui, avec la même dignité, unis à lui parfaitement, au Père, dans cette action de grâce. J'insiste, nous appelons l'Esprit Saint pour une qualité d'union au Christ, mais aussi pour une qualité d'union entre nous, pour pouvoir faire une offrande pure et sainte à la suite du Christ, avec le Christ au Père. Sixième temps, les intercessions. L'Eucharistie est célébrée avec toute l'Église, celle du ciel comme celle de la terre, pour les vivants et pour les défunts. Ainsi nous trouvons ces phrases, « Souviens-toi Seigneur de ton Église », et puis nous implorons aussi « pour nos frères défunts ». Il y a quelque chose de très beau qui est vécu là, hein, c'est cette union de toute l'Église, de tout le corps de l'Église, avec l'Église triomphante qui est au ciel, l'Église militante qui est sur la terre, l'Église souffrante qui se purifie pour entrer dans la plénitude de la vision divine et qui est dans ce qu'on appelle encore l'état de purgatoire. Voilà que la célébration de l'Eucharistie ressaisit, unifie tout le peuple de Dieu. Nous bénéficions avec ceux qui sont au purgatoire de l'intercession des saints, et nous portons aussi dans notre intercession, nous nous portons les uns les autres, et nous portons aussi nos frères défunts. Il est beau, il est bon d'avoir conscience de ce lien qui nous unit. Peut-être que cela donnera chair à cette parole que prononçait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur son lit de mort, « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Ceux qui sont bienheureux ne sont pas indifférents à notre sort, justement avec un cœur si uni au Christ, ils sont compatissants à ce que nous vivons et n'ont qu'un désir que nous puissions à notre tour les rejoindre dans la béatitude éternelle. Enfin, septième moment, la doxologie finale. Elle exprime la glorification de Dieu, c'est ça que signifie le mot doxologie, glorifier, en disant « par le Christ, avec lui et en lui, et nous nous adressons au Père, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles ». Le prêtre prononce ces paroles en élevant la patène et le calice vers le ciel, en élevant le corps et le sang de Jésus vers le ciel, vers le Père donc. C'est un signe très fort. De la même façon, on pourrait dire que le Verbe de Dieu, le Fils du Père, était descendu du ciel, il s'était fait chair, il a accompli son œuvre de salut, et cette œuvre de salut a réussi. Et du coup, de la terre monte vers le ciel, remonte vers le ciel, l'offrande parfaite, qui est le Christ lui-même, offrande de son humanité renouvelée, mais aussi toute l'humanité qui déjà est tirée par lui vers le ciel. Nous avons dans ce geste-là le signe de l'histoire qui a réussi, de l'histoire du salut qui a réussi, et du monde tout entier récapitulé par le Christ, c'est-à-dire le monde, l'histoire des hommes, mais aussi l'histoire de la création, sauvée par le Christ, qui est élevé vers le Père, qui devient digne de la vie divine, du partage de la vie divine, par l'action du Christ et de l'Esprit-Saint. Dans un monde où la blessure du péché est encore active, il est bon de poser régulièrement les yeux sur ce geste de la doxologie, sur cette élévation du corps et du sang du Christ qui manifeste la victoire du salut, qui manifeste la victoire du Christ, qui manifeste que le plan de Dieu a réussi, que le plan de Dieu a réussi. La victoire de Dieu, le salut du monde, n'est pas une hypothèse dont on ne connaît pas l'issue. Elle est acquise par le Christ. La question sera pour chacun de nous d'accueillir ce salut ou pas, mais il nous est offert. Le plan de Dieu réussira. C'est ce qui nous est manifesté. Si je devais prendre une image, c'est un peu une bataille dont l'issue ne fait désormais plus de doute, mais dont le combat se poursuit encore. Je reprends cette image que j'ai peut-être déjà évoquée avec vous. À Waterloo, quand les Prussiens arrivent sur le champ de bataille, l'issue de la bataille ne fait plus de doute, mais le combat va encore durer plusieurs heures. En contemplant la doxologie, nous n'avons plus de doute, la victoire de Dieu est acquise, même si le combat va encore se prolonger plusieurs années. Voilà ce que je voulais vous dire sur la prière eucharistique. Pour approfondir, je vous propose peut-être de lire une prière eucharistique de votre côté, peut-être la prière eucharistique numéro 3, et puis d'essayer de retrouver les 7 parties qui la composent conformément aux documents que vous avez. Et puis une suggestion pour la semaine, puisqu'il y a 7 parties dans la prière eucharistique, eh bien de chaque jour, pour la semaine qui vient, méditez plus particulièrement l'une de ces parties. Je vous souhaite de bons échanges. À bientôt.